débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Nathalie Janson, professeure à Neoma Business School. Philippe Trénard, professeur honoraire au CNAM et membre du Cercle des économistes, partenaire de cette édition chaque jeudi. Laurent Vronsky, directeur général d'Hervor, secrétaire général de Croissance Plus et membre du comité stratégique des écoles Espérance Banlieue. Bon, j'ai eu pas mal de réactions, j'en ai gardé une. Qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà. C'est John qui m'écrit: avoir des riches qui ne créent pas d'emplois et ne paient pas d'impôts n'a aucune utilité, il faut les taxer au maximum. Moi, je pense que sur les 1800, là, dont il est question, si on reprend Zucman, c'est quand même des gens qui doivent posséder des grosses boîtes, investir assez massivement et créer pas mal d'emplois. Et même s'ils ont peut-être un taux moyen à 27%, les sommes versées avec ces 27% sont copieuses.
Il est probable que la majorité des emplois français dépendent d'eux.
Il y a des chances. On va pas mettre des noms comme on met toujours.
Oui, c'est toujours les mêmes.
C'est toujours les mêmes qu'on met en pâture. Est-ce que c'est le moment de l'Europe, Nathalie Janson? Est-ce que l'euro a un rôle, une opportunité historique au moment où certains commencent à imaginer que la puissance dominatrice du dollar pourrait disparaître?
Alors oui, le thème traîne depuis déjà quelques années et est accentué par effectivement les affres de, enfin tout ce qui se passe autour de Donald Trump. Donc puisqu'effectivement il y a eu des obligations, des émissions d'obligations qui ont été un peu qui n'ont pas eu des succès comme d'habitude. Donc on se dit tiens, c'est vraiment peut-être le moment de l'euro. Alors il faut savoir que cette fameuse dédollarisation qu'on annonce depuis quelques temps, donc déjà elle est quand même pas très nette dans les chiffres, mais ce qui est intéressant, ce qui est sorti hier d'une petite étude, d'un petit article dans le Financial Times, c'est qu'en tout cas, en termes de réserves dans les banques centrales, eh bien, mauvaise nouvelle pour l'euro, il est passé en troisième position derrière l'or.
L'or, voilà. L'or, la donc, réserve en or voilà, dépasse les réserves
en or. Exactement, donc c'est la première fois, il faut quand même remettre dans le compte, c'est quand même assez significatif, hein, puisque c'est la première fois depuis qu'on a abandonné Bretton Woods qu'on atteint à nouveau ce pic de détention d'or.
Qui est lié quand même à la valorisation de l'or.
Alors, pas seulement en termes de tonnage.
Nous sommes dans le même
tonnage que dans les années 60. Donc, il faut quand même se le dire. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, que ce n'est pas le genre de chiffre que je retrouverai facilement. Voilà, c'est 36 000 tonnes. Nous étions à 38 000 dans les années 60. Donc, vous voyez, on est quand même très, très proche. Donc, déjà.
Détenus par les banques centrales.
Détenus. Alors là, je parle effectivement, ouais. je ne parle pas d'autre chose. Ici, le point était sur les banques centrales. Et ce que ça révèle, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est plus pour des. C'est pas tellement pour des soucis de préoccupation d'inflation, mais réellement des problèmes de géopolitique et de protection contre, en fait, l'arme d'avoir des sanctions. Donc, ce sont toutes les banques centrales ou les pays potentiellement sanctionnables ou sanctionnés, en fait, qui ont cette politique de s'éloigner du dollar.
La Russie avait commencé après la Crimée.
Exactement, on pense à l'Iran, enfin voilà. Et effectivement, la Chine est donc en première ligne dans cette dédollarisation, puisqu'elle est passée, d'ailleurs, une autre information intéressante, elle est passée avec un pic de détention d'obligations américaines qui passait le 1000 milliards dans les années 2010. Et elle est devenue, là récemment, c'est l'Angleterre qui est devenue le deuxième pays détenteur après le Japon, et la Chine lui passe derrière.
Ah oui.
Donc effectivement, on a des mouvements, mais des mouvements qui sont très géopolitiques. Ça ne veut rien dire quant à l'affaiblissement du rôle du dollar sur les marchés, par exemple, puisque, je vais encore le répéter, SWIFT est un système de paiement international basé sur le dollar, et la majorité des activités financières sont référencées en dollars. Donc, effectivement, on a bien un mouvement de dédollarisation qui s'observe dans la stratégie des banques centrales pour des raisons tout à fait géopolitiques et qui se comprennent et qui sont intéressantes à analyser. Néanmoins, dans la partie concrétude, on s'aperçoit que dans les tuyaux, dans la tuyauterie des paiements, eh bien, le dollar, il est toujours là et visiblement, on n'a pas l'air de s'en débarrasser. D'autant plus, là, je vais rajouter ma casquette de crypto, d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est quand même la forte expansion des monnaies stables, des fameux stablecoins, et c'est le stablecoin dollar qui est largement dominant.
Parce que
je vous rappelle qu'il occupe 98% du marché, que l'euro représente même pas 1% de ce marché. Donc, moi, la dédollarisation, je veux bien, mais je ne la vois que de façon géopolitique compris. Dans les banques centrales.
J'ai bien compris. Et Patrick Artus avait expliqué à cette même place il y a quelques semaines que c'était bien gentil de parler de dédollarisation, mais alors maintenant vous me citez l'alternative au dollar. Et
exactement. Bah si.
Oui, Philippe, vous vouliez ajouter quelque chose.
Je ne suis pas tout à fait d'accord.
Ah bah, allez-y.
La dédollarisation dont nous parlons n'est pas quelque chose que nous constatons dans les faits. Ça, nous sommes d'accord. La dédollarisation dont nous parlons, c'est quelque chose qui devrait arriver. Et c'est vrai, je pense que le gouverneur a raison, nous sommes à un moment historique. Ce moment historique, c'est la crise de confiance qu'il y a eu dans le dollar. C'est une crise de confiance unique, elle est unique depuis 1945. Il y a juste eu le moment où, là, on a le relevé, arrêté la convertibilité hors du dollar. Ça a été un moment très bref. Et après ça, les Américains ont fait 10 ans d'efforts pour recouvrer cette capacité. C'est vrai que tout est en dollars. Et vous avez cité SWIFT, c'est-à-dire nous ne payons que par un système qui est un système dollar et articulé au dollar. Mais l'euro a une opportunité. Pourquoi ? Parce que Trump, par ses différentes actions imprévisibles, ses allers et retours, est en train de saper la crédibilité sur le long terme des États-Unis. Le problème de la crédibilité, c'est que vous mettez 20 ans 30 ans, 40 ans pour l'acquérir et quelques jours pour la perdre. On ne reviendra pas en arrière demain sur ce qui s'est passé. Certes, le dollar est remonté parce que les marchés veulent croire dans le dollar. Ils veulent croire que le monde ne va pas changer. Ils veulent croire que Trump va faire finalement une politique raisonnable par-delà toutes les agitations. Mais reste derrière le vrai problème, c'est qu'il a été possible tout d'un coup, d'ébranler, voire quasiment de casser le système international. Donc, l'euro doit s'engouffrer. Mais pour s'engouffrer, il faut quelques conditions. Il faut bien accueillir les capitaux. Ça nous renvoie à la discussion que nous avions il y a quelques instants. Il faut beaucoup de stabilité et il faut être aussi, devenir un des piliers de l'ordre international, c'est-à-dire d'un ordre, même s'il est limité géographiquement, qui assure une capacité de paiement. Et certainement, il nous faut penser à des substituts à SWIFT pour l'avenir, afin de ne pas être nous-mêmes dépendants d'un diktat américain qui pourrait nous être extrêmement défavorable.
Dans les éléments que vous citez, Philippe Trénard, certains sont un peu palpables aujourd'hui. Je me souviens de ce que nous avait dit Agnès Benassi-Kiré qui rentrait des printemps de Washington, FMI Banque Mondiale. Parmi les trois éléments qu'elle avait retenus, c'est d'abord que le système financier résistait. Il y a un élément, je ne sais plus duquel était. C'était l'incertitude le premier, et le troisième, c'était l'envie d'Europe.
Oui. Non, mais il y a une envie. Ça, un investisseur aime la diversification, quelque part.
Oui, non, mais...
Voilà, mais c'est un avantage. Maintenant, à l'euro de jouer.
À l'euro de jouer. Laurent Vronsky.
Alors, moi, je trouve que la discussion est intéressante parce que moi, je vois la dédollarisation depuis 30 ans. Mais concrètement. Et quand, donc, en 93, nous, on était présents à 90% sur le marché hexagonal hein, et 10% à l'export. Et quand on a fait ce virage massif pour se diriger vers l'export, je me souviens très très bien, je veux dire que le risque de change était quelque chose d'important. Je veux dire, il y avait toutes sortes d'instruments auxquels il fallait souscrire pour se prémunir contre le risque de change.
Mais ça a toujours existé, Laurent, le fait d'essayer d'anticiper le risque de change.
J'entends bien. Donc, à l'époque, on ne pouvait pas négocier. C'est-à-dire que si, dans certaines zones, on vous disait « moi, je vous paye en dollars », il y avait zéro discussion. Hein. Et alors, on avait à peu près une liste de 4 à 5 devises. Eh bien, aujourd'hui, les règlements en dollars, mais c'est même pas 0,01%. Et on exporte 90% de notre production en dehors de la zone euro. Les seuls qui nous imposent le dollar, ce sont des administrations américaines. Ce sont les seuls. Aujourd'hui, vous dites, parce qu'il y a marqué compresseur Hervor, il n'y a pas marqué banque Hervor, on n'est pas une salle de marché. Ce n'est pas notre rôle de prendre des risques de change. Donc on dit à nos clients, c'est de l'euro. Il y a zéro discussion. Personne ne nous propose du dollar. Alors qu'à l'époque, pour les petites devises, on nous disait, bon d'accord, alors je ne vais pas vous payer en roupies, mais je vais vous payer en dollars. C'est fini ça. Donc, ce que je vois à travers ma petite lorgnette est très différent.
Oui. Alors là, j'aurais dû nuancer. Il est vrai que du côté règlement, il y a eu une augmentation de la facturation en euros, mais en fait, le rôle financier du dollar est nettement supérieur. C'est-à-dire tout ce qui est les mouvements financiers.
Absolument.
Et là, Je pense que c'était aussi la remarque de votre invité quand il disait qu'elle était peut-être pas encore là, la dédollarisation. C'est qu'en fait, on est très en retard. C'est-à-dire que le marché des capitaux européens, effectivement, ne peut pas prendre la suite tout de suite maintenant de celui américain. Et c'est là où est l'enjeu, parce que c'est là où les volumes de transactions sont les plus importants. Mmh. Mais oui, je rejoins. J'imagine bien que entre un franc et un euro, on a gagné en termes d'imposer sa monnaie.
Incroyable.
Mais le gouverneur a d'ailleurs dit qu'il fallait pour cela avoir un marché des capitaux plus développé en Europe. Et de même, c'est la question du système de paiement, c'est de la question de SWIFT. SWIFT a été redoutable, c'est une réaction à l'attentat du World Trade Center, mais ça a été une réaction redoutable. D'ailleurs, dans les sanctions, honnêtement, les sanctions sur les exportations, ça fait mal, mais ça ne joue pas beaucoup sur la Russie. SWIFT, ça joue.
Ça joue, bien sûr. Exactement.
Avançons. François Villeroy de Galhau, le gouverneur, comme vous dites, Philippe Trenard. Alors lui aussi, c'est à peu près tous les deux jours maintenant que quelqu'un nous dit un jour le mur, on sait jamais, vous savez, on s'approche, et puis un jour on est dedans, et puis les problèmes n'arrivent pas qu'aux autres. Et puis on a commencé l'émission en expliquant que personne n'était à l'abri du défaut. Alors il le dit avec ces mots. Attention à l'arrivée au risque d'une prise en ciseaux entre les prêteurs et les besoins en dépenses publiques. Amélie de Montchalin a dit « Oh là, si on fait rien, attention, le FMI sera à Paris ». On a décrypté avec Christian Parizeau ce que serait vraiment une intervention des institutions extérieures en cas de tension de marché sur la France. Ça viendrait de la BCE et des outils BCE et pas du FMI. Est-ce que ça commence à vous inquiéter, l'idée que, ce qu'a dit Robin Rivaton il y a quelques semaines ici, que la France vive un moment Liz Truss en 2025, c'est possible?
Non, c'est tout à fait possible. Ah. D'ailleurs, vous voyez dans les chiffres des probabilités calculées économiquement à partir des CDS, etc.
Les contrats d'assurance, les produits de marché d'assurance.
Oui. Vous voyez que le risque de défaut de la France est en train de s'envoler et est supérieur à celui de l'Italie, à celui de l'Espagne, à celui du Portugal. Une situation absolument unique. Donc nous avons versé dans les 50% des États qui sont dans la région européenne, où il y a quelques pays de l'Est, etc., qui sont à risque. Ce qui n'est pas du tout une bonne situation. Ça veut dire que s'il y a un quelconque choc financier important, vous êtes les premiers vendus. On dit les 50% qui sont un peu bancales, on va les vendre. Et deuxièmement, on voit bien qu'il y a eu un choc sur les États-Unis, un choc de crédibilité. Hein, on voit ce thème des vigilantes qui est revenu, qui fait la une de nombreux journaux anglo-saxons. Mais ce qui est très grave, c'est que s'il y a un problème sur les États-Unis, ça va être un problème sur l'ensemble des dettes souveraines. À l'heure actuelle, c'est pas le problème simplement des États-Unis, c'est le problème des dettes souveraines. Et parmi les dettes souveraines, les plus élevées seront pointées du doigt, dont la France. Ce qui veut dire qu'on pourrait avoir une crise s'il y a un retrait. Alors vous allez me dire, mais au fond, une crise de cette nature, qu'est-ce que c'est? C'est un envol, naturellement, des taux d'intérêt. Évidemment. Ce qui fait que ça nous coûte plus cher. Déjà que ça nous coûte plus cher que l'éducation, que la défense, etc. Ça nous coûtera beaucoup plus cher. Ça nous coûtera autant que l'éducation. Premier point. Mais surtout, le problème des marchés, c'est qu'à ce moment-là, quand il n'y a plus de confiance dans la dette publique, il y a un lien économique entre dette publique et crédibilité des politiques monétaires dans la lutte contre l'inflation. Parce qu'il n'y a qu'un moyen pour rendre la dette publique soutenable, c'est l'inflation. Donc immédiatement, vous allez avoir une spéculation sur l'inflation et on sait que ces mécanismes sont par eux-mêmes inflationnistes. Donc nous allons avoir un énorme problème avec une banque centrale devenant un peu incompétente dans la maîtrise de l'inflation, enfin dans la capacité à maîtrise de l'inflation, donc avec une envolée des taux d'intérêt et de l'inflation, la situation la plus catastrophique qu'on puisse imaginer.
Jusqu'à imaginer la situation, le prix à la gorge, avec l'obligation politiquement de prendre des choix ultra-violents et ultra-rapides à la grecque.
La Grèce, c'est-à-dire on ne veut pas vous financer du tout, à quelque taux que ce soit, et donc vous devez rétablir l'équilibre en l'espace de 15 jours.
Et bien là, on vous met 2-3 points de TVA, on vous, au minimum, gèle les pensions, gèle le SMIC.
En général, c'est les retraités qui prennent le plus.
Vous réduisez de 20-30% les prestations sociales.
Le tableau, Laurent Vronsky.
Je trouve que c'est intéressant, on peut faire un parallèle avec
l'ISF. Il y a deux ans, on disait jamais ça n'arrivera.
Oui, justement, on peut faire un parallèle avec l'ISF. D'accord ? C'est-à-dire qu'on vous dit,
allons-y.
Il n'y a pas d'exil fiscal. D'accord ? On joue à se faire peur, tout le monde va partir, etc. On vous dit aussi, la France est un pays très riche. Il n'y a pas de sujet. On a la dette la plus demandée au monde. La preuve, on en a émis pour 3700 milliards, c'est formidable. Donc écoutez, on va éviter les effets de manche, parce que demain sera comme hier. Ça, c'est les demi constitutifs de la situation dans laquelle nous sommes. Et je le répète, pourquoi la France épargne tellement? Mais c'est parce que les gens ont peur. Moi, je le sens tous les jours, je n'ai pas besoin de lire dans les journaux. Il n'y a jamais eu autant. Alors, l'incertitude, c'est le mot, on va dire, c'est le mot chic. Mais les gens se posent de vraies questions sur leur avenir. Et là, à force de dire en boucle qu'en clair, la France est le pays qui épargne le plus, les gens, ils ont compris, ils n'ont pas besoin de sortir de Polytechnique. Si on dit, on va nous faire les poches. C'est ça que les gens se disent. Les gens se disent, il n'y aura pas de retraite pour moi. Donc, ceux qui sont à Checkpoint Charlie, c'est-à-dire ceux qui sont à la limite, là, dans les 61-62, se dépêchent de partir à la retraite parce qu'il reste encore une petite part du gâteau. Donc, de dire la France est un pays riche, avec un taux d'épargne extraordinaire, avec une dette que tout le monde s'arrache et un consentement à l'impôt, jamais il n'y aura de chaos technique, je pense que c'est inconscient. Parce que les choses arrivent. Je veux dire, je vais casser ma longue barbe, ça fait suffisamment longtemps que je traîne mes guêtres dans l'économie. Le nombre d'entreprises réputées infaillibles qui allait survivre à tout.
Oui, c'est vrai, ça.
Est énorme, et des noms extrêmement prestigieux. Donc oui, ça peut arriver. Non, on n'est pas là pour essayer, si vous voulez, de défendre des avantages. Je pense que la situation est vraiment grave. Et dernier point en ce moment, je veux dire, ou alors j'ai pas bien compris, mais là on a des économistes, mais je crois que la France n'est pas la seule à émettre de la dette.
Non, et l'Allemagne
que,
va bien.
Ce qui veut dire
l'Allemagne
qu'il y a,
va revenir.
Ce qui veut dire qu'il y a plein de gens qui vont émettre de la dette. Bienvenue dans le monde de la concurrence que des gens comme moi connaissent matin, midi et soir. C'est-à-dire que peut-être que la dette française, avec ses fondamentaux qui ne sont pas si extraordinaires, ne sera plus aussi convoitée qu'elle l'était. Et là, comment on va le vendre, le papier ?
Eh, c'est chaud.
On va faire la poche aux riches, mais il n'y aura pas assez de riches.
On leur a déjà fait la
Nathalie Janson. Non, le truc, c'est qu'il y a pas mal de gens, et notamment qui sont venus ici, qui me disent, mais de toute façon, vu les âneries sur âneries qu'on sort à chaque budget, tout en promettant la lune dans les premiers mots de discours, et finalement avec des désastres à l'arrivée, il nous faudra un bon coup de surin dans le dos pour qu'on se mette à faire le job.
Oui, parce qu'en
ça, c'est
plus...
C'est le grand argument.
Oui, tout à fait, parce que ceux qui le défendent, enfin, ceux qui effectivement disent qu'en fait, il n'y a pas de problème, en plus, ils regardent le Japon en disant, bah regardez...
Oui, c'est toujours ça.
Voilà,
250%
le Japon, il n'y a aucun problème, de 60%, ils sont... De toute façon, ils ne feront pas défaut parce que leur population, j'ai eu ce débat encore il y a assez récemment, parce que de toute façon, ils épargnent beaucoup, mais l'épargne privée, ce n'est pas l'épargne publique, à ce que je sache. Et donc, à moins de supposer qu'effectivement, on va leur faire les poches, moi, je ne vois pas en quoi, je veux dire, c'est la désirabilité de la dette qui prime.
Nathalie, ajoutez que notre épargne, c'est du remboursement d'un prêt au logement,
oui.
D'un endettement.
Oui, en plus.
C'est une drôle d'épargne, c'est pas une vraie épargne.
C'est effectivement
un désendettement.
C'est un désendettement. Et donc, c'est quand même hallucinant, quoi. Donc, se comparer au Japon pour dire on va bien, bon, d'accord, ok. Non, je pense pas que ce soit une bonne stratégie. Surtout qu'ici, c'est bien la question de la désirabilité de la dette. Donc, en effet, si d'autres dettes plus désirables émergent, ben voilà. Surtout que nous, contrairement à d'autres pays, nous sommes donc ceux dont la dette est la plus détenue à l'extérieur, hein, si on compare l'Italie, l'Espagne, le Portugal, c'est ça. Et on est donc celui qui est le plus en concurrence, puisque nos résidents nous aiment, mais pas tant que ça, puisque on n'est pas... Voilà, on n'est pas comparable à d'autres. Donc, je trouve effectivement le discours très sympathique et très fleur bleue par rapport en fait à la situation qui pourrait effectivement déraper quand on regarde les chiffres, en tout cas.
Je me souviens, un jour, on avait eu le débat ici. Moi, il ne comptait pas un défaut de la France. Il ne s'en est pas produit depuis les assignats en 1793, ça n'arrivera pas. Bon. Oui, Philippe,
juste une petite précision pour aller tout à fait dans le sens de Nathalie, c'est qu'en plus, la dette japonaise, en face de la dette japonaise, il y a des actifs, surtout des actifs recouvrables. Nous avons bien une dette nette de ces actifs qui est plus faible que les 116% actuels, mais malheureusement, nos actifs ne sont pas recouvrables. C'est des remboursements sur la sécurité sociale, par des trop payés de gens qui sont sans revenus, etc. Donc c'est essentiellement non recouvrable. Au Japon, c'est recouvrable en contenu. Et c'est recouvert d'ailleurs régulièrement. Donc la notion de dette nette japonaise
c'est pas la même nature.
Est absolument pertinente.
Oui, mais la dette japonaise est une dette très intérieure. Oui. C'est une grande différence. Nous sommes détenus.
Et nous sommes détenus parce que nous sommes détenus. Le taux de détention par l'extérieur, nous avons un chiffre de taux de détention qui est un chiffre de petits pays,
exactement,
pas de grands pays.
De
tout simplement parce que nous ne générons pas le capital en France qui veut s'investir en France, domestique pour s'investir en France. Donc là, on a un vrai problème. D'où on revient d'ailleurs à notre premier entretien sur la taxe Zuckmann.
Faisons la taxe Zuckmann, ça va tout régler, n'est-ce pas? On va terminer, il est 5 minutes 30, on va terminer avec vos réactions par rapport... Alors, j'avais dit, on ferme la séquence fiscale à la mi-émission.
Et en fait, vous la rouvrez.
Alors, je vais dire, là, c'est la hausse d'impôts qui ne dit pas son nom. Donc, ça a été la sortie de début de semaine d'Amélie de Montchalin qui dit, bon, bah, écoutez, service à la personne, c'est 6,8 milliards tous les ans... Bon, il y a des trucs vraiment, vraiment utiles qu'on va garder, la garde d'enfants et l'aide aux personnes âgées, mais alors après, on va probablement faire un peu le ménage sur pas mal de métiers qui sont éligibles aujourd'hui à cette niche fiscale d'emploi à domicile. Le jardinage, l'assistance numérique, peut-être le soutien scolaire, je ne sais pas. Il y a 26 métiers aujourd'hui éligibles et globalement, deux resteraient vraiment en tête de gondole et les autres, on raboterait, voire on les supprimerait. Bon, allez, Laurent, ça vous a inspiré quoi cette séquence? Rien n'est décidé, rien n'est décidé. Mais on parle quand même de 3,3 millions d'employeurs, dont 20% d'ailleurs ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu, car il s'agit d'un crédit d'impôt.
Alors moi, c'est un sujet auquel je réagis très vivement, parce que étant industriel, nous, on travaille avec nos mains. Hein, donc on est très sensible, si vous voulez, à ce qui peut se passer pour des gens qui ont un savoir-faire manuel. Bon. Il faut revenir aux genèses des avantages. On n'a pas, si vous voulez, distribué des avantages aux riches pour qu'ils aient un majordome et trois soubrettes chez eux. C'est pas ça l'idée. À l'époque, il y avait un maximum de travail au noir sur ces métiers, mais qui touchaient beaucoup de métiers, les métiers du bâtiment, par exemple, hein, qui touchaient certains métiers de la mécanique. Et donc, on s'était dit, c'était intelligent, mais tous les gens qui étaient dedans le savaient. On avait dit, mais si au moins, nous, on voudrait bien payer les gens normalement, mais ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait un cadre, je dirais, qui soit fiscalement incitatif. Mais on ne nous fait pas de cadeaux. Et donc, on a sorti, si vous voulez, donc, ces avantages, mais finalement, c'est une régularisation. Et là, comme par hasard, les esprits éclairés ont dit « Ah oui, mais c'est incroyable, le travail au noir est en train de baisser massivement. » Ben, c'est pas compliqué. Là, c'est un vrai choix de société. Si on veut de nouveau retrouver des niveaux de travail au noir massifs, c'est exactement ce qu'il faut faire. Alors, autant le faire bien. On enlève tous les avantages, même les gardes à domicile, les machins, les bidules, vous allez voir, l'économie sera florissante parce qu'il y a des gens qui n'ont juste pas le choix. Il y a des gens qui emploient du personnel à domicile. Je suis désolé, ils n'ont pas tous, en majorité, des hôtels particuliers dans le 16e.
Mais non, vous avez 20% des employeurs particuliers ne sont pas redevables de l'impôt sur le revenu.
Ça veut dire qu'il y a un quart de la population, et on le sait tous. C'est les femmes divorcées, c'est les gens, c'est les personnes âgées, c'est les gens comme ça. Donc, c'était une mesure relativement intelligente, ce qui devient rarissime, comme le bon sens. Je veux dire, ne revenons pas, n'incitons pas les gens à revenir dans la zone grise et la zone noire.
Alors, chaque fois qu'on a touché aux emplois à domicile, on a eu des effets travail dissimulé, pour ne pas dire travail noir, ça énerve certaines personnes de travail noir aujourd'hui. On a eu des effets, mais presque 24 heures après, on voyait effectivement le travail déclaré qui reculait très sensiblement. Sur ce sujet, alors Nathalie et puis Philippe.
Oui, moi je le prends souvent comme exemple justement pour introduire lors des premiers cours d'économie pour parler de l'incidence fiscale et de montrer qu'en fait effectivement la taxation va avoir un impact sur les décisions et les décisions d'emploi. Et je trouve ça, enfin je veux dire, c'est l'exemple type, il y en a vraiment, voilà, celui-là, le contrôle des loyers, c'est vraiment les caricatures de ce qu'il faut éviter de faire si on ne veut pas tomber dans un système effectivement avec beaucoup d'économies dissimulées, enfin d'une activité avec une forte dissimulation du travail. Donc je ne vois vraiment aucun intérêt, ou à moins qu'effectivement on se penche sur la question de savoir comment on peut avoir un système fiscal qui ne marche pas sur la tête, parce que c'est vrai que de faire des niches parce que en fait la fiscalité n'est pas au bon niveau, c'est peut-être pas terrible, mais en tout cas c'est sans doute pas la bonne solution.
Bon, allez Philippe Trénard, pour terminer le tour de table.
Juste pour terminer et pour pour ajouter, c'est une très mauvaise solution, parce que tout simplement, quel a été l'objectif de cette mesure à l'origine?
Baisser le coût du travail et éviter le travail dissimulé.
On a un coût du travail qui est très élevé et que pour certaines catégories dépasse leur productivité. Si dépasse leur productivité, ça veut dire que vous ne les employez pas. Voilà.
C'est pour ça qu'on a mis les cotises à zéro, voilà. À un SMIC.
Donc, quand on va remettre en cause cela, la conséquence, c'est que ça va se partager entre le travail au noir et le chômage. Alors, ça arriverait à un excellent moment pour le chômage, au moment où le chômage va remonter. Tout le monde prévoit une remontée du chômage. Alors, c'est vrai, si ils veulent donner un coup de booster un peu la remontée du chômage, je trouve l'idée parfaitement bonne. Inversement, il faut savoir que c'est dans un pays comme le nôtre, c'est un moyen de maintenir une rémunération relativement élevée du travail non qualifié, tout en maintenant l'emploi du travail non qualifié. Et n'oublions pas qu'il ne s'agit pas d'un avantage fiscal, en fait, il s'agit d'une sorte de remboursement des taux de cotisation employeur qui sont quand même aujourd'hui historiquement élevés et qui sont les plus élevés au monde.
Et voilà. Et en plus, on dit 7 milliards, 6 milliards 8 de coûts, mais c'est du brut. Parce que quand l'employeur déclare, il a effectivement un retour de. Quand il a un retour de 100 euros de crédit d'impôt, en fait, il va verser 80 euros de cotisation.
Oui.
Absolument. Bon, il ne les versera plus.
Bon, écoutez, je crois qu'on a fait sa vie, son œuvre, là, sur l'emploi à domicile. Génie. Ils sont géniaux, parce qu'il n'y a que des idées fiscales qui fleurissent de manière concrète. Après, il y a des grandes incantations sur les dépenses,
surtout qu'il n'y a rien de nouveau, en plus, c'est ça.
Non, ce qui est au fond dramatique, et on le voit dans l'expérience américaine, l'incapacité à trouver une vraie politique de maîtrise des dépenses rationnelle, raisonnable.
Nathalie Janson, Philippe Trénard, Laurent Vronsky, demain 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.